Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, c'est un livre qui retient notre attention, un livre remarquable qui s'appelle « Représenter la vision, figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance ». Une histoire qui n'avait pas encore été écrite, ça n'est pas la fin du Moyen-Âge, ça n'est pas le baroque, c'est l'apparition des saints, l'apparition des apparences, l'apparition de ce à quoi l'on rêve dans la peinture. Et donc, Guillaume Casgrain, qui est l'auteur de ce livre, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université de Grenoble, spécialiste de la peinture vénitienne de la Renaissance, a écrit sur Tintoret, sur la coulure, sur Roland Barthes, et il a fait ce livre qui était le sujet de sa thèse, et qui est un très beau livre, et j'ai la chance de l'avoir avec moi pour en parler. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Bon, c'était un gros ouvrage, ça a été votre thèse ?
Oui, c'était ma thèse, donc c'est une partie de ma thèse qui a été publiée comme cela, remaniée pour l'occasion de ce livre, et une thèse que j'avais entreprise sous la direction de Daniel Arras, à qui je dédie évidemment l'ouvrage.
Vous, dès les premières pages, Daniel apparaît, et ce livre publié chez Actes Sud, je dois dire, est un des grands livres d'histoire de l'art que j'ai lu récemment, et je suis très heureux de pouvoir en parler avec vous, et avec Jean-Baptiste de Beauvais. Bonjour Jean-Baptiste, comment allez-vous ?
Bonjour Jean de Cloisy.
Vous êtes docteur en philosophie et auteur d'un essai, Voir Dieu, essai sur le visible et le christianisme. On voit bien la relation avec ce dont nous allons parler. Mais vous avez travaillé aussi sur la question de l'indéterminé chez Hegel, de l'évidence chez Pascal. Vous collaborez à plusieurs éditions de Monumenta. Vous connaissez bien l'art contemporain. Vous travaillez parfois au Palais de Tokyo par accident et tout se passe bien. Guillaume Casgrain, ce livre Représenter la vision. C'est assez étrange, je trouve, comme sujet. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression que la Renaissance s'était consacrée à représenter de façon réaliste l'histoire, histoire sainte ou pas. Et tout d'un coup, ce livre me montrerait que on peut quitter l'histoire pour être dans l'apparition. Est-ce que c'est pas une contradiction par rapport à ce qu'essaye de faire la peinture de la Renaissance ?
Si, il y a une contradiction historique dans le fait que la Renaissance se manifeste par une sorte de révolution imposée par le milieu humaniste florentin, Brunelleschi et surtout Alberti, qui en 1435 publie le De Pictura.
Il faut dire juste, donc Brunelleschi, architecte et peintre, extraordinaire personnage de la Renaissance, néoplatonicien comme tout le groupe à ce moment-là, oui. Et Alberti, mathématicien, philosophe, peintre, théoricien, auteur de la vie de beaucoup d'autres.
Non, il n'a pas écrit de,
ça c'est
de
Lazari,
vie, mais
raison, ça
peintre,
c'est...
on ne sait pas, parce qu'il dit qu'il est peintre et que le De Pictura, le traité qu'il consacre à la peinture, il dit qu'il l'écrit comme un peintre, en étant peintre, mais on n'a jamais attribué aucune peinture à Alberti. Donc
mais il crée cet étagement dans l'espace qu'on va appeler la perspective et qui permet de voir les choses réellement à la bonne taille. Et puis vous brisez tout cela par votre livre et vous faites surgir au mauvais endroit, en dehors de l'histoire, à des tailles improbables, des dieux, des déesses, Jésus, ou la Vierge, ou des saints, et qui viennent briser toute cette logique. Donc c'est un livre sur l'illogisme de la Renaissance ?
C'est une part, oui, de la pensée dévotionnelle qui perdure à la Renaissance et qui va à l'encontre de cette pensée rationaliste défendue par Alberti, les humanistes. Donc Alberti dit que la peinture ne doit représenter que ce qui est visible sous le soleil. Et les apparitions, c'est pas exactement ça. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe ou de conflit entre les règles qui vont être instaurées au XVe siècle et cette tradition de la représentation dévotionnelle, des apparitions, des visions.
Jean-Baptiste de Beauvais, vous avez lu ce livre, vous l'avez rencontré dans quel état d'esprit ?
Avec beaucoup d'admiration en fait, puisque je pense que j'ai trouvé que ce livre était courageux. Il aborde des peintures qu'on a l'habitude de voir plutôt avec un œil, disons, qui apprécie la virtuosité, la manière picturale, la façon de le peindre et qui s'intéresse peu en fait, d'une certaine manière, à la façon dont ces tableaux nous entraînent dans des contrées bizarres qui sont celles de la dévotion dont vous parlez. Et donc, quand on regarde des anges qui flottent dans les cieux, qu'on voit la Vierge apparaître au milieu du nuage, on le regarde depuis notre présent avec un peu de suspicion, en se disant sans doute que c'était des gens qui étaient dans un autre monde et que c'est pas très contemporain. Or, le livre de Guillaume Casgrain montre que tout ça répond à une certaine logique, et que cette logique, elle est liée à la question du christianisme et de la foi. Et de ce point de vue-là, il remet ensemble des éléments qui étaient peut-être un peu séparés aujourd'hui.
J'ai bien aimé ce qu'a dit Jean-Baptiste sur la question de la dévotion. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de la peinture comme objet d'instruction, ni vraiment comme objet de décoration, mais vraiment comme objet de dévotion, c'est-à-dire comme médium assez sacré, capable de porter la puissance de l'apparition. C'est ça que ça veut dire ?
Oui, c'est ça. C'est ce que l'on dit maintenant avec les études récentes de Belting ou de Bredekamp, c'est que l'image agit, ou elle est agissante. Et qu'on n'attend pas simplement d'une image qu'elle décore à l'intérieur ou qu'elle représente une histoire passée, qu'elle nous apprenne quelque chose. On attend aussi d'une peinture qu'elle guérisse, qu'elle nous rassure, et donc qu'elle agisse sur notre quotidien. Et les apparitions et les visions sont là pour ça.
Mais c'est un théâtre avec ses accessoires, ou est-ce que le mot théâtre est choquant sur ce sujet-là?
Non, pas du tout, parce que il y a la représentation des visions qui m'a intéressé, mais il y a aussi les théâtres sacrés, au cours desquels, donc des pièces, des représentations des épisodes importants de l'histoire sacrée, comme l'Annonciation, par exemple, qu'on représentait dans les villages avec les gens du coin. Et puis, on représentait des apparitions, un ange qu'on mettait sur un filin, un enfant, qu'on le faisait glisser sur la place publique pour qu'il joue le rôle de l'ange. Donc,
Alors, on fonce dans la précipitation de notre conversation vers les représentations chrétienne, mais il y a aussi des apparitions de Zeus, il y a des apparitions païennes, si je puis dire.
Tout à fait, oui.
Qui utilisent le même type de répertoire, qui sont comparables.
Pour la peinture, oui, ça a été mon hypothèse, c'est que quel que soit le mode de représentation, la peinture s'en remet presque toujours au même code pour signifier qu'il y a apparition dans un univers réaliste. Donc quand Jupiter apparaît à une jeune femme, il est souvent entouré de nuages, il flotte dans les airs, donc dans la partie supérieure du tableau, enfin c'est des codes très proches.
Jean-Baptiste de Beauvais, ceci infirme ce que vous venez de nous dire, puisque vous dites ces peintures portent la dévotion, or à l'évidence, les peintures en question, quand il s'agissait de Jupiter séducteur apparaissant à ses mêlées ou à une autre, c'est pas de la dévotion.
Et bien, c'est toute la question qui justement attirer l'attention de l'Église à l'époque, qui était très vigilante sur la façon de traiter ces sujets, et qui, c'est ce que redira le Concile de Trente, il fallait être certain que ce qui était représenté là avait bien à voir avec la question fondamentale du christianisme, à savoir celle d'une apparition première dont il faut parler pour comprendre tous les enjeux iconographiques qui est l'apparition du Christ au tout départ. Et cette apparition, elle est paradoxale puisque il apparaît comme un homme, et cette poignée de gens qui l'ont vu en son temps se sont répandus à travers le monde en disant « nous avons vu Dieu ». Et quand on leur posait la question « et donc il est comment Dieu ?», ces gens-là disaient « bah en fait il est comme vous et moi ». Et donc il nous parlait d'un Dieu qui s'était fait homme et qui mettait en péril la question même du visible et du divin. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la décoration de la peinture, il y a vraiment deux arguments très forts qui accompagnent le développement de l'image, qui sont d'un côté l'argument didactique, où il faut les peintures servent à raconter l'histoire qui est celle des Écritures et des Évangiles en particulier, et puis il y a l'argument christologique qui, dans l'image, met quelque chose qui va poser problème tout au long de l'histoire du christianisme, à savoir que fait-on avec ces objets qui pourraient devenir des objets d'idolâtrie.
Alors, Guillaume Casgrain, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Baptiste ?
Oui, tout à fait, mais on peut même rebondir sur votre remarque de confusion possible entre les genres, puisqu'il y a une partie de la tradition spirituelle chrétienne qui envisage les apparitions, les visions sous un mode érotique. Beaucoup de saintes
Pouvez me donner un exemple que nos auditeurs
Sainte Thérèse, Sainte Catherine voient dans leur cellule seule le Christ apparaître auquel elles s'unissent, qu'elles embrassent, etc. Donc il y a une vraie un vrai érotique mystique qui est dont l'apparition est le moteur.
Parce que ce que l'on va voir dans les tableaux dont vous allez nous parler, que vous allez nous décrire, vous allez bien nous donner une dizaine d'exemples, j'espère. Eh bien, ce que l'on va voir, c'est aussi le théâtre, non pas le théâtre, mais le spectre des émotions sur le visage de celui qui assiste à l'apparition. C'est-à-dire, on va pas seulement voir dans ces tableaux des saints ou des dieux apparaître, mais aussi l'effet de l'apparition.
Oui,
c'est ça qui va être.
Il y a beaucoup de tableaux d'ailleurs qui se passent de la représentation de l'apparition elle-même.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ?
Ben celui, il y a par exemple des tableaux. Raphaël fait beaucoup ça. Vous avez soit vous supprimez le visionnaire lui-même et donc le spectateur est à la place du visionnaire, voilà. Soit dans le Saboldo, représentant Marie-Madeleine au moment de la résurrection du Christ, quand elle le rencontre après sa résurrection, on ne voit pas le Christ. C'est-à-dire qu'on voit simplement les effets physiques que cette résurrection a sur la Madeleine.
Et comment décririez-vous le visage de la Madeleine?
Entre la fascination et l'effroi, il y a quelque chose de terrible, c'est-à-dire qui nous attire et en même temps qui nous inquiète parce que on n'est pas habitué à la manifestation d'une divinité dans le cadre de la réalité.
Jean-Baptiste de Beauvais, vous voulez intervenir ?
Oui, parce que je pense que cet exemple du tableau de Savoldo, qui va d'ailleurs avec un autre exemple que vous citez dans votre livre, qui est la Vierge
d'Antonello da Messine.
Voilà, qui est un tableau fabuleux. Absolument fantastique, parce que peut-être d'ailleurs le plus moderne de toute la série est celui qui contredit ce que je disais auparavant, parce que c'est celui qui est le plus regardable par nos yeux d'aujourd'hui, puisque précisément ce que voit la Vierge, à savoir...
Vous pouvez nous le décrire
On a donc la Vierge qui est légèrement de trois quarts, devant elle évidemment une Bible dont les pages légèrement se lèvent, comme si un vent les animait, et d'une main elle retient son vêtement, et de l'autre, comme... classiquement dans les représentations d'Annonciation, elle lève sa main droite. Et donc elle regarde en fait exactement à côté de celui qui regarde le tableau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de voir celui qui voit le tableau, à savoir nous-mêmes, mais elle est en train de voir à côté de celui qui voit le tableau, l'ange Gabriel qui lui parle. Et donc ça veut dire que la vision dans ce tableau a lieu à l'extérieur du tableau. Et ça, c'est absolument...
Auprès du regardeur.
C'est, et donc,
il
le regardeur,
y a un ange près du regardeur.
Et c'est incroyable, parce que si on se met à la place de ce regardeur, en imaginant qu'il ait la foi et qu'il soit dans un moment donc de dévotion et de prière, ça veut dire que quand il regarde ce tableau, d'un coup, il se dit qu'à côté de lui, il y a l'ange. Et évidemment, il va être tenté de tourner la tête pour voir l'ange. Et là, peut-être que l'ange y sera. Peut-être pas. C'est à la discrétion du regardeur que cette hypothèse est laissée. En tout cas, le tableau est absolument fantastique. Et
il vaut le voyage. Hein. Il est à Palerme, dans une petite salle magnifique. Et ce voile bleu extraordinaire, ce regard assez jeune, comme ça, de la Vierge, et la gradation des émotions, c'est dingue. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Casgrain ? Vous avez choisi cet exemple. C'est un des premiers qui tombe sur notre regard quand on lit votre livre.
Oui, parce que c'est un cas symptomatique de ce choix figuratif d'exclure l'acteur de la vision et de ne garder que celui qui reçoit cette vision, ce qui est une manière de, c'est comme une caméra subjective, hein. Donc le spectateur prend le rôle de l'ange et voit avec les yeux de l'ange.
Dans votre livre, vous parlez de la succession des émotions, comme s'il y avait une codification de succession d'émotions. D'abord, la peur, ensuite...
C'est les théologiens de l'époque qui ont classifié les différents moments de réaction de la Vierge au moment de l'Annonciation.
Donnez-nous deux, trois exemples que je...
Mais elle est d'abord effrayée, surprise, parce que ce n'est pas normal que dans sa chambre surgisse quelqu'un. Elle ne s'y attend pas. Donc, vous avez quelquefois des représentations de la Vierge qui s'agrippent à son lit, tellement elle a peur de cette intrusion. Après, elle est interloquée. Après, elle accepte le message divin qui lui est transmis. Voilà, donc c'est différent.
Et ce travail des théologiens, il a été repris par les peintres, littéralement, ils s'en sont inspirés, ils l'ont construit.
Oui, je pense, parce qu'on a, on a dans les représentations d'Annonciation ces différents moments qui peuvent être représentés. Soit on va insister sur la perturbation de la Vierge, soit sur l'acceptation. Donc, ils ont certainement connaissance de ces classifications.
Alors, je vous propose d'écouter la vision d'Hildegarde de Bingen. On est au XIIe siècle, et ça nous donnera une petite idée de ce qui se passe quand une divinité apparaît.
J'étais en ma 65e année. J'eus alors une vision dont le mystère était si profond, qui tellement me bouleversa, que mon corps tout entier se mit à trembler. Faible que j'étais, je tombai malade. 7 ans durant, cependant, je travaillais sur cette vision, et je réussis à peine à achever ma rédaction. Hildegarde de Bingen, 1163.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous parlons d'un livre, Représenter la vision, figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance, publié chez Actes Sud, écrit par Guillaume Casgrain, un livre passionnant, et nous venons d'entendre Hildegarde de Bingen évoquer sa vision, sur laquelle il y a une distorsion curieuse de temps, c'est-à-dire qu'entre la vision qui a un temps suspendu et les 7 ans de méditation là-dessus, vous insistez sur cette distorsion, Guillaume Casgrain.
Bah oui, c'est un des faits, une des caractéristiques de la vision, et qui pose du coup problème, non seulement pour la représentation de ces manifestations miraculeuses, mais aussi pour leur lecture, leur interprétation pour l'historien de l'art. Mais c'est assez fréquent de constater qu'il y a une différence entre la soudaineté de l'apparition, qui est souvent très courte, et le temps très long qu'il faut pour la comprendre, pour essayer même de décrire tout simplement ce qui s'est passé. C'est pour ça que cet objet m'intéressait aussi en tant qu'historien de l'art, c'est que on voyait une sorte de paradigme du travail de l'historien de l'art qui, confronté à une image, devait lui-même essayer d'adapter par le biais de sa description les configurations singulières de ce qui lui était offert visuellement.
Jean-Baptiste de Beauvais, vous trouvez que cette relation entre contempler une vision et contempler un tableau, seule une feuille de cigarette séparerait les deux?
En tout cas, il y a quelque chose qui, dans ce que vous décrivez comme étant cette distorsion entre le temps immédiat de la vision et ensuite ce temps de travail, en fait, pour la ressaisir, c'est sans doute vrai pour le visionnaire qui est, entre guillemets, en état de choc et qui met apparemment 7 ans, là, pour Hildegarde von Bingen, pour se remettre de ses émotions et coucher sur le papier le récit de cette vision. C'est sans doute vrai pour l'historien de l'art qui est habité par les tableaux, qui le voit à l'occasion dans les musées. Après, il travaille avec des reproductions dans son bureau. Mais c'est sûrement vrai aussi, j'allais dire, à l'échelle même de l'histoire du christianisme, puisque l'apparition première dont je parlais tout à l'heure, celle du Christ, elle a eu lieu pendant quelques années. Et ça fait 2000 ans qu'on est en état de choc et que, en tout cas, les croyants, les chrétiens, par exemple, mais aussi les théologiens, bah, essayent de se ressaisir là-dessus et d'inventer des concepts pour comprendre ce qui s'est passé et qui a été vu par peu et qui a été ensuite diffusé à travers le monde. Donc cette distorsion-là entre une immédiateté et un temps de ressaisie est essentielle pour dire aussi que c'est à partir de ces effets, en fait, que les choses prennent de la consistance.
Guillaume Casgrain, quand le peintre, lui, va s'emparer du récit de la vision et va essayer de dire ce qui s'est passé, il a des stratagèmes. Comment fait-il ? Y a-t-il des tactiques, des techniques pour y parvenir ?
Il y a des codes, ça c'est certain, qui se sont peu à peu mis en place et qui sont assez répétitifs. Alors ça tient pas au fait du manque d'imagination des artistes, mais c'est parce que c'est un moyen aussi d'efficacité, c'est-à-dire qu'on va mieux comprendre à quoi on a affaire si on reprend ces codes comme le nuage, l'encadrement de l'apparition.
Alors, prenons-les donc. Un nuage, c'est-à-dire le dieu ou le personnage qui apparaît
est entouré de nuages.
Est entouré de nuages. Vous avez un exemple en tête ?
Oh ben, pratiquement tous. L'œuvre de Raphaël qui fait la couverture du livre, ben, vous avez une ouverture dans les nuages qui permet de montrer l'apparition angélique. La Madone Sixtine de Raphaël. Hein, Raphaël est un grand spécialiste des apparitions, mais la Madone Sixtine transforme le lieu du tableau lui-même en une sorte de nuée gigantesque. Donc c'était un arrière-plan de nuage.
Alors là, le nuage est là pourquoi ? Il est là pas pour dire que ça vient du ciel, mais il vient là pour dire que c'est un espace non mesurable. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est non mesurable, et puis c'est une manière aussi de faire une césure entre le monde terrestre quotidien et cette réalité divine qui apparaît soudainement.
Et alors, en général, le visionnaire, il est les yeux écarquillés, il est endormi, il est en train de songer. Quelle est la position du visionnaire ?
Pour la peinture, généralement, c'est les yeux levés au ciel. Parce que même après la Renaissance, hein, c'est un code qui se maintient. Et dès que quelqu'un lève les yeux au ciel, eh bien, ça...
Il y a un tableau célèbre de Raphaël, là où, justement...
La Sainte-Catherine.
Sainte-Catherine qui laisse tomber de stupeur son instrument de musique.
Ah oui, mais presque tous les tableaux des visionnaires de Raphaël reprennent ce code. Hein, mais même quand vous avez une figure seule qui lève les yeux au ciel, on sait qu'elle a une apparition. Donc,
J'ai eu l'impression que dans votre livre, on évoquait souvent des objets qui tombaient. C'est la stupeur, quoi. Un livre, il n'y a pas un tableau auquel vous pensiez.
De Moretto, le dévot lâche son livre devant l'apparition du Christ portant sa croix. Oui, c'est-à-dire que non seulement c'est la manifestation de la surprise, donc on laisse tomber ce qu'on est en train de faire, mais c'est aussi la manifestation d'un contentement, c'est-à-dire qu'on a une révélation qui nous permet de nous débarrasser de tout le savoir humain. Ce que montre d'ailleurs Raphaël dans les fresques de la chambre de la signature, aussi bien. Enfin, surtout pour la dispute du Saint-Sacrement, qui est organisée comme une vision. Donc, on abandonne progressivement le savoir humain, les livres, la rhétorique, la discussion, pour avoir la révélation soudaine par la vue et par l'apparition du Christ.
Jean-Baptiste de Beauvais.
Pour revenir au nuage, ce qui est assez paradoxal, c'est que le nuage inspire la vision par nature, puisque on a tous regarder les nuages dans le ciel et vu des choses apparaître dans les nuages. Donc ce qui est intéressant et paradoxal, c'est que les nuages là fonctionnent comme un signe, c'est un code, c'est-à-dire qu'on ne suppose pas que le visionnaire a vraiment vu au milieu des nuages apparaître la Vierge, mais on fait comprendre à celui qui est en dévotion que là il y a une apparition parce qu'il y a un nuage. Et donc c'est d'un point de vue de ce qu'est le nuage dans la peinture, à la fois un motif qui fonctionne formellement parce qu'il appelle les apparitions et un motif qui fonctionne comme un code, comme un signe qui est absolument fascinant.
Et alors, le nuage, il amène aussi autre chose, qui est la verticalité.
Voilà, ça c'est très
parce
important.
Parce que normalement, la Renaissance, c'est la profondeur, non ?
Oui.
Et alors ?
Eh bien, la vision impose cette lecture verticale, qui est même souvent superficielle, c'est-à-dire qui arrête le prolongement vers l'infini d'un paysage, comme on était habitué à l'époque à le voir. Et la verticalisation fait que, eh bien, on oppose ainsi la terre au ciel, le matériel au spirituel, et c'est une structure qui est presque anthropomorphique et qui se maintient très très longtemps. C'est-à-dire que notre corps est lui-même structuré selon ces règles, avec les pieds sur le sol et notre tête, donc ce qui est la partie la plus spirituelle, vers le ciel.
Alors, Sainte-Thérèse d'Avila, vous en parliez tout à l'heure, écoutons.
Le Seigneur prend l'âme et l'élève complètement de terre, comme les nuées où le soleil attire les vapeurs. La nuée divine s'élève dans le ciel, emporte l'âme à sa suite et commence à lui dévoiler les splendeurs du royaume qui lui est préparé. Mon âme était enlevée, et même ordinairement ma tête suivait ce transport sans qu'il y eût moyen de la retenir. Quelquefois même le corps tout entier était emporté lui aussi et ne touchait plus terre. Sainte Thérèse d'Avila, 16e siècle. Caritas abatto.
venons d'entendre ce dont vous parliez, Guillaume Casgrain, parlant donc de ses apparitions dans l'histoire de la peinture, le corps de Sainte-Thérèse se convulsant, voyant les nuées apparaître. C'est-à-dire que non seulement le peintre, comme un code, imagine les nuées comme symbolisant l'arrivée d'un monde autre, mais finalement le visionnaire, lui aussi, voit ces nuées. Alors est-ce que c'est une vision influencée par la peinture ?
Oui, sans doute. On a beaucoup de cas de vision qui reposent sur la connaissance préalable de tableaux. C'est-à-dire que la peinture de vision fait voir de nouvelles visions. Ou alors la description de vision de certains visionnaires s'appuie sur des tableaux qu'ils connaissaient, qu'ils avaient dans leurs églises, etc. Donc c'est un échange entre les deux. Et vous avez même des tableaux qui apparaissent à la Renaissance, des tableaux qui tombent du ciel.
Vous pouvez nous donner des exemples qu'on se fixe.
Vasari nous raconte le cas de peinture qui serait tombée du ciel miraculeusement. Donc la peinture est elle-même, peut être elle-même l'œuvre d'une apparition miraculeuse.
Oui, à propos de quoi dit-il ça ?
Oh, d'un tableau inconnu, je veux dire, c'est pas un tableau célèbre, mais c'est...
Enfin, un tableau qui apparaît miraculeusement, il a une certaine importance.
Oui, non, mais ça, on ne l'a pas gardé, évidemment, mais c'est une sorte de fantasme que la représentation de la vision pour le peintre peut...
Est-ce qu'il n'y a pas dans votre livre la représentation d'un tableau qui est dans une petite chapelle, regardé par un personnage, et ce qui apparaît dans le tableau apparaît à côté du tableau?
Oui, c'est un peintre anonyme, mais qui représente le maillage mystique de Sainte-Catherine. Et donc là, le tableau agit, c'est-à-dire que par la ferveur de sa prière et de son investissement dévotionnel, le Christ sort du tableau avec sa mère pour aller à l'encontre de la sainte et qu'il dédaigne, parce qu'on voit que le Christ détourne le visage, qu'il ne la trouve pas encore assez belle pour se marier avec elle.
C'est vraiment ça que ça veut dire, parce que oui. Bon, Sainte Catherine, c'est le mariage mystique de Sainte Catherine.
Mais elle n'a pas encore fait assez d'efforts à ce moment-là pour pouvoir s'unir au Christ.
Donc elle est désirante, voilà. Et elle crée la vision, voilà. Mais elle n'est pas épousée,
voilà.
En quelque sorte.
Voilà, tout à fait. Mais donc le tableau répond aux attentes de la sainte.
Donc. Donc là, ça donne une puissance à l'idée même de la peinture sacrée. La peinture, est-ce que j'exagère en disant peinture sacrée ? Est-ce que c'est, on peut dire ça ?
Oui, on peut dire. Il y a beaucoup de tableaux perdent, enfin, dont la dimension esthétique est délaissée pour leur valeur sacrée et notamment pour leur puissance miraculeuse. C'est-à-dire, vous avez des tableaux qui sont miraculeux, qui font des miracles, et bien souvent, ces tableaux miraculeux proviennent de visions. Ont été faits soit sous l'influence de la vision, soit sont des tableaux eux-mêmes produits de manière miraculeuse.
C'est assez fascinant, Jean-Baptiste de Beauvais, cet échange entre le tableau miraculeux crée une vision qui crée elle-même une apparition et qui va recréer un tableau.
C'est fascinant et en même temps, ça se comprend bien dans cette circulation de l'image, comme vous le dites très bien, entre le tableau qui est fabriqué pour, d'une certaine manière, générer des visions dans l'esprit du regardeur, qui lui-même du coup voit le tableau autrement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de ce point de vue-là, la vision ne fonctionne pas sous le régime de la preuve, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir si la vision est avérée comme étant le témoignage du divin, mais comme produisant les effets du divin. Et le divin, en l'occurrence, il doit produire une seule chose, c'est la question de l'amour, et l'amour qui se renforce de lui-même. Par exemple, là, on a écouté Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila doute et est suivie toute sa vie par des prêtres qui s'interrogent sur la véracité de ses visions. C'est-à-dire, est-ce qu'elle les simule d'abord ? C'est la première question. Et c'est une question qui se pose. Et une fois qu'on a résolu cette question, il est donc prouvé qu'elle ne simule pas ses visions, la question c'est de savoir si ses visions viennent du démon ou de Dieu. Et pour résoudre cette question, la deuxième, fondamentale, est-ce que ce sont des visions qui viennent du démon ou de Dieu ? La seule réponse, c'est celle que Sainte Thérèse donne, c'est par les effets de la vision que je sais si elle vient de Dieu. Parce que les effets de la vision, c'est de produire plus d'amour. Et donc si j'ai plus d'amour pour le Dieu qui m'est apparu, alors c'est que la vision vient bien de Dieu.
Donc c'est la jouissance de la sainte est la preuve de l'authenticité de sa vision. On peut dire ça comme ça, Guillaume Colvin?
On peut, mais pour des cas vraiment spécifiques. Ça, on peut pas l'appliquer.
C'est un sacré cas. Voilà, hein, voilà.
C'est... Mais c'est vrai qu'il y a une enquête qui est régulièrement faite, notamment dans la deuxième moitié du XVIe siècle, avec la réforme catholique qui prend de plus en plus d'importance. Et donc on se méfie non seulement des affabulations possibles, mais aussi des tentations diaboliques qui pourraient faire croire aux fidèles qu'ils ont eu une apparition divine, alors que c'est en fait une tentation du diable. Donc il y a des questionnaires qui sont soumis aux visionnaires pour savoir si on a effectivement affaire à une vision, donc savoir à quoi ressemblait la Vierge, comment elle était habillée. Une autre question très étrange, c'était par où elle est partie, qui permet de valider ou pas la vision.
Le fait si,
ben parce que il y a un à droite ou à gauche, c'est bénéfique ou maléfique. Si elle est remontée directement au ciel ou pas. Donc supposer qu'il y aurait eu une manigance. Bon. Et puis le fait que ça soit répété trois fois. Si la vision a été répétée trois fois, ça, c'est un bon signe, ça.
Voilà. Mais alors, est-ce que les saints, donc les aspirants saints, cherchaient à provoquer en eux-mêmes la vision?
Oui, oui, il y en a. Ce qu'on appelle les mystiques font ça, c'est-à-dire par une ascèse, par même...
Il n'y avait pas des trucs plus simples, quelques feuilles de laurier sous l'oreiller, des choses...
Ah, ça peut être, parce qu'il y a de toute façon une hygiène qui permet d'accéder à un état visionnaire. Mais c'est aussi bien souvent un don, une grâce, parce que si on le travaille trop, ça n'a plus de... enfin, ça, on perd ça, cette dimension miraculeuse.
Il faut qu'il y ait une...
Faut pas que ça devienne quotidien, autrement, c'est maladif.
Jean-Baptiste de Beauvais.
Mais on vous dites maladif, mais par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, il est avéré qu'elle était épileptique. Hildegard von Bingen, si ma mémoire est bonne, elle avait des migraines ophtalmiques. Ça veut dire que quand elle voyait les choses, elle avait devant le regard des taches de lumière. Et c'est très intéressant parce que d'ailleurs, les textes d'Hildegard von Bingen sont accompagnés d'enluminures et on se pose la question de savoir si c'est elle-même qui les a réalisés. Et une des raisons qui tendrait à prouver que c'est elle qui les a réalisés, c'est qu'on voit dans certaines des enluminures des petites taches de lumière qui n'ont rien à y faire et qui seraient en fait la trace de ces migraines ophtalmiques.
Elles sont magnifiques d'ailleurs, hein, les illustrations de ses propres visions par Hildegard von Bingen, ça a été publié, c'est d'une beauté singulière, mais c'est des cosmogonies en fait, hein, il me semble, hein, Guillaume Casgrain.
Oui, oui. Mais alors, c'est ça le paradoxe dans la représentation, dans la description des visions, c'est que ça doit être singulier, parce qu'à chaque fois, il y a une sorte de révélation qui dépasse l'entendement humain, donc ce qui fait que les visionnaires mettent du temps aussi à les comprendre. Mais en même temps, puisque c'est représenté, il faut que ça rentre dans certains codes. Autrement, c'est...
Vous mettez sur le même plan, Guillaume Casgrain, les visions en état de contemplation et les visions en rêve, parce qu'il y a aussi des songes. Et on représente des apparitions alors que la personne est dormeuse.
Oui, les phénomènes sont très différents, mais pour la représentation, à mon avis, c'est la même chose, parce que on ne peut pas les représenter différemment. Les peintres utilisent les mêmes codes lorsqu'il s'agit d'un rêve, d'une apparition, parce que on n'a pas d'autres moyens que de les mettre tous sur le même plan.
Alors, il y a quelqu'un qui parle merveilleusement de l'image, toujours, hein, c'est Michel Foucault, donc il évoque cette question. Écoutons-le.
L'image alors peut s'offrir à nouveau, non plus comme renoncement à l'imagination, mais comme son accomplissement au contraire. Purifiée au feu du rêve, ce qui en elle n'était qu'altération de l'imaginaire devient cendre, mais ce feu lui-même s'achève dans la flamme. L'image n'est plus image de quelque chose, tout entière projetée vers une absence qu'elle remplace. Elle est recueillie en soi-même et se donne comme la plénitude d'une présence. Elle ne désigne plus quelque chose, elle s'adresse à quelqu'un. L'image apparaît maintenant comme une modalité d'expression et prend son sens dans un style. Si on peut entendre par style le mouvement originaire de l'imagination quand il prend le visage de l'échange. C'est pourquoi le primat du rêve est absolu pour la connaissance.
Mmh.
Michel Foucault.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons d'un livre paru chez Actes Sud, absolument fascinant. C'est un livre sur les apparitions miraculeuses qui, dans la peinture italienne de la Renaissance, ça s'appelle « Représenter la vision ». Guillaume Casgrain, vous êtes son auteur, vous êtes avec nous. Nous venons d'entendre Michel Foucault avec une conclusion magnifique. C'est le primat du rêve est absolu pour la connaissance. Tout d'un coup, on a l'impression que l'Église, par exemple, s'empare du rêve pour en faire une démonstration de son pouvoir.
Oui, le rêve est un moyen de connaissance. C'est-à-dire pour nous, esprit rationaliste, c'est peut-être difficile à comprendre. Et c'est pour ça que le texte de Foucault m'a beaucoup inspiré, parce que l'introduction qu'il fait de la théorie de Binswanger est un texte magistral, hein, et qui donne des pistes très intéressantes pour l'analyse des peintures de la Renaissance. Et donc on voit bien que, obsédé par notre rationalité, on a du mal à comprendre aussi le fonctionnement que Foucault appelle lui-même imaginaire du monde, et que les tableaux dont il est question dans mon livre bien mettent ça en avant, c'est-à-dire que il y a aussi un savoir visuel, pas simplement des démonstrations qui en passent par le langage, la pensée rationnelle.
Et en fait, l'apparition, c'est l'absolu célébration, c'est l'absolue célébration du visible, alors que c'est de l'invisible qui apparaît.
Oui, c'est ça. Hein, c'est quand la peinture le prend en charge, bien c'est encore plus accentué parce qu'on a le visible qui est magnifié par le visible. Donc la vision est un moyen aussi de valider l'utilisation de la peinture dans le culte, puisque en voyant les saints, par exemple, en peinture, eh bien on va être capable de les reconnaître en vision. C'est toujours utile de savoir à qui on a affaire.
Quand on rêve.
Voilà.
Jean-Baptiste de Beauvais.
C'est ce que vous dites est très profond et paradoxal, parce que par exemple pour le Christ, c'est un argument des défenseurs de l'image de dire que précisément il faut faire la représentation du Christ en tableau pour que au jour de la résurrection on soit capable de le reconnaître. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faudra bien savoir qui il est. Sauf qu'évidemment, c'est un argument qui semble bancal, a priori, puisque des représentations du Christ, ce sont 1000 visages qu'on voit apparaître à travers toute l'histoire de l'art. Mais en effet, ce qui se passe, c'est plutôt ce que ce Christ provoque en nous. Et par rapport à la question du rêve, dans votre livre, vous parlez à un moment, et c'est absolument magnifique, de la façon dont les peintres ont besoin du sommeil justement pour faire apparaître les images. Et donc il y a une sorte de manière de mettre en avant, non pas une paresse, mais une sorte de vacances de l'esprit. On ne doit pas être au travail, on doit justement laisser son esprit flotter pour que les apparitions, les sujets de peinture en fait, viennent à l'esprit du peintre. Et à un moment vous citez, ça c'est extraordinaire, la façon dont Dürer, quand il se lève le matin, fouille dans ses draps pour voir s'il n'y a pas quelques restes de rêves qui pourraient l'inspirer pour des tableaux futurs.
Guillaume Casgrain.
Oui, il regardait ses oreillers, savoir la forme des oreillers pouvait indiquer le type de rêve.
Il a dessiné ses oreillers, il y a des très beaux dessins, c'est poids de la tête dans l'oreiller.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vacance nécessaire pour l'inspiration, puisque les apparitions c'est aussi une sorte de fantasme pour les artistes eux-mêmes, qui voudraient avoir la vision de leur tableau déjà achevé. Et pour arriver à cela, il faut accepter un non-vouloir saisir pour se laisser gagner par l'inspiration céleste.
On est dans un culte de la vacuité qui est assez étrange. Hein, donc il faut, à ce moment-là...
Mais là, c'est pareil, c'est contre nos propres repères ou nos propres valeurs. Et Léonard, par exemple, dit qu'on voit mieux en les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. Ce que dit un peu Lacan, d'ailleurs, aussi. Donc, je pense que l'imaginaire est une donnée que l'on a délaissée et qui est en train de se perdre de plus en plus.
Alors, dans l'imaginaire, il y a aussi la taille des personnages, et je pense à un texte de Vasari, dans les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, le fameux série de textes sur les peintres de l'histoire de l'art italien et de 1550, et dans lequel justement Vasari insiste sur l'échelle, parce qu'au fond, ce sont des géants qui apparaissent, ce sont des gens qui échappent à toute mesure de l'espace. Écoutons-le.
Pour l'autel de Saint-Pierre-Martyr dans l'église San Giovanni e Paolo. Le Saint-Martyr y est plus grand que nature. Au milieu d'un bouquet d'arbres immense, il est tombé à terre et attaqué avec violence par un soldat qui l'a blessé à la tête. Il est à moitié mort et on voit l'horreur de sa fin sur son visage. Un autre moine qui s'enfuit en courant est l'image de l'épouvante et de la peur de mourir. Dans les airs, deux anges nus sortent d'un éclair qui illumine un magnifique paysage. Magnifique aussi l'œuvre tout entière, la plus achevée, la plus célébrée, la plus grande, la mieux conduite et mieux réalisée que tout autre Titien. Giorgio Vasari, 1550.
Guillaume Casgrain, on vient d'entendre cette description superbe de Vasari sur l'autel de Saint-Pierre à San Giovanni e Paolo. Le martyr est plus grand que tout ce qui l'entoure. Est-ce que il y avait dans l'architecture d'une église, par exemple, des endroits spéciaux pour les apparitions, ou est-ce que n'importe quel hôtel pouvait en recevoir?
C'est surtout sur les devant les autels, parce que au-dessus des autels il y avait les tableaux, donc ça favorisait cette imprégnation imaginaire qui pouvait déclencher une vision. Mais tout compte fait, les visions à la Renaissance se produisaient plutôt dans des lieux isolés. Et vous avez plus de chances d'avoir une vision si vous êtes une femme, une bergère, dans la campagne, que si vous êtes en pleine ville. C'est rare, les visions en centre-ville.
Ouais. Il faut peu de témoins.
Oui, c'est un dialogue intime entre, alors soit vous êtes recluse, reclus dans un couvent, dans votre cellule, mais il y a peu de visions collectives. C'est toujours des visions intimes.
Et pourtant, l'architecture reçoit dans les coupoles, par exemple. On a l'impression que les coupoles sont faites pour l'apparition de la vision. Le ciel s'ouvre, le Christ apparaît, ou la Vierge.
C'est des effets scénographiques ou théâtraux qui sont mis en œuvre, mais qui entendent rejouer ces effets de la vision, notamment par la lumière, qui vient quelquefois frapper une image ou lui donner l'impression de vie, mais qui ne produisent pas véritablement des visions telles qu'on les définit à la Renaissance, qui sont vraiment des cas très spécifiques, et là encore une fois codifiés. Donc tout le monde n'est pas capable d'avoir une vision, la vision n'arrive pas à n'importe quel moment.
Je repense à ce que vous disiez sur pas de vision en centre-ville. Il y a un tableau très étrange, qui d'ailleurs avait été montré, je crois, au Grand Palais, dans l'exposition, je ne sais plus comment elle s'appelait, de Jean-Hubert Martin, qui est un tableau où une vision flotte au-dessus d'une ville. On a l'impression que la ville est un rouleau, s'enroule. Ça vous dit quelque chose ?
Oui, qui est reproduit dans le livre.
Oui.
Oui, qui est un tableau fascinant, qui est d'Angolo del Moro.
Oui. Voilà.
Et qui montre justement le caractère utopique de la vision, c'est-à-dire que la vision est insituable. Donc là, Angolo del Moro le fait de manière prodigieuse, parce que la vision de la Sainte Famille, elle est entre deux toiles. On ne sait pas vraiment où elle se situe.
Alors elle est entre deux toiles, elle est vaporeuse.
Oui.
Les personnages sont pas tout à fait consistants.
Voilà, elle est vraiment sans lieu, utopique. La vision, on le disait pour la perspective, on ne peut pas la situer dans un quadrillage mathématique, puisque ça échappe à la rationalité humaine.
Vous avez vu ce tableau, Jean-Baptiste de Beauvais ?
Oui, il est fascinant parce qu'il génère une sorte d'effeuillement comme ça, comme si derrière la couche de l'image, il devait encore y en avoir une autre, et comme si le regardeur était appelé à traverser successivement des images les unes après les autres. Un peu d'ailleurs comme dans une église, l'architecture compte, vous en parliez tout à l'heure, pour aussi faire gravir des échelons spirituels. C'est ce qui est défendu d'ailleurs par l'abbé Sugère quand il revendique l'idée selon laquelle la lumière et les couleurs dans l'église, par l'architecture, doivent permettre cette élévation de l'esprit.
L'abbé Sugère était le programmateur de la cathédrale de Saint-Denis. C'est pour ça que vous en parlez, effectivement. Il y avait un dispositif global destiné à faire de tout l'espace sacré un lieu de vision, d'une certaine façon.
Oui, mais...
Le mot est trop fort.
Ben non, pour ce cas-là, oui, tout à fait. Mais pour la Renaissance, je pense que vraiment que ça se situe dans le cadre des autels. C'est pour ça que le tableau d'autel, j'y consacre un chapitre entier, parce que ça me semble un cas exemplaire qui montre un moyen de venir progressivement à la vision et donc de favoriser éventuellement une perception visionnaire. Puisque les peintres, comme dans le tableau que j'aime beaucoup de Marco Bassetti, qui représente l'agonie au Jardin des Oliviers. Vous avez donc une prolongation du cadre réel du tableau dans l'espace fictif de l'œuvre, qui représente une chapelle dans laquelle sont situés quatre saints, une chapelle qui est pavée. Et puis si on continue encore le cheminement, on arrive au lieu du jardin avec le Christ et les apôtres endormis. Hein. Et là, on a un passage d'un lieu architecturé à un lieu naturel, sans aucune jonction. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Et si l'agonie au Jardin des Oliviers est une fresque qui serait peinte sur le mur de cette chapelle fictive, ou au contraire, une ouverture visionnaire qui est possible par la progression de l'investissement dévotionnel du fidèle. Donc,
ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'architecture se dissout pour laisser place à la perspective du Jardin des Oliviers. On y est, quoi. Tout d'un coup, elle nous amène...
Mais progressivement, on passe de l'architecture réelle de l'église à l'architecture fictive de la chapelle, puis après, à cette vision de l'agonie au Jardin des Oliviers. Donc, le tableau d'autel, à Venise notamment, peut être pensé comme une machinerie qui permettrait la transformation d'un regard charnel en un regard spirituel, et donc favorisant éventuellement une vision.
Alors, je vous demande pardon de revenir un peu en arrière, parce que ça, c'est absolument passionnant. Là, on est dans une situation où l'architecture est dissoute par la vision. On pourrait dire que ce dont j'essayais de parler tout à l'heure, les coupoles, c'est aussi ça, c'est la dissolution absolue de la matière par la coupole. Il y a un très beau commentaire d'ailleurs du grand historien de la Renaissance, Burckhardt, sur le Corrège. Peut-être on pourrait l'écouter, puis on va y revenir juste après.
De 1526 à 1530, Corrège peignit la coupole de la cathédrale. Et là, il s'abandonna sans limite à sa façon d'interpréter les sujets supraterrestres. Au centre, le Christ accourt au devant de la Vierge, qui s'avance parmi une masse d'anges et de nuages. Le motif, et le moment d'ailleurs, ne manque pas de puissance. Cette grappe d'anges innombrables qui se précipitent les uns au devant des autres et s'enlacent avec passion est un exemple dans l'art. Ce qui est tout à fait admirable, ce sont quelques-uns de ces génies et aussi des anges de la coupole même, mais surtout ceux qui, dans les pendentifs, planent autour des quatre patrons de Parme. C'est presque une forme d'ivresse que l'impression causée par ces figures. Jacob Burckhardt, 1879.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière. Nous sommes en train de commenter avec son auteur le livre publié aux éditions Actes Sud, Représenter la vision, figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance. Quelle aventure, nous voilà déjà ivres de cette vision. Nous avons les yeux vers la coupole, tout se dissout, les anges tournoient, les nuages sont là et au milieu les quatre patrons évidemment de la ville nous regardent. Et donc comment est-ce que les artistes utilisent des stratagèmes pour nous embarquer dans l'affaire? Parce que tout à l'heure, on avait ce très très bel exemple de la Vierge de Palerme, comme ça, qui nous regardait, et l'ange était censé être près de nous si on suivait son regard. C'est un type de stratagème qui vient souvent?
Oui, quand on a affaire à des décorations de coupoles, notamment, on peut imaginer que l'espace réel dans lequel se trouve le spectateur se trouve immergé par la décoration et fasse en sorte qu'il devienne un acteur principal. Donc dans ce que dit Burckhardt est juste, c'est-à-dire que l'espace dans lequel se trouve le spectateur est intégré à la scénographie pensée par Corrège, Corrège qui est un autre grand peintre visionnaire, hein, et les anges se saluent d'un pendentif à l'autre, donc on est au cœur de ce dialogue, et les peintres ont souvent eu recours à ce type de tactique pour immerger le spectateur dans un espace qui est réel, mais qui se transforme progressivement en espace imaginaire.
Jean-Baptiste de Beauvais, l'architecture est en train de nous manipuler ou de nous mettre dans un état psychique de disponibilité?
C'est toute la question que s'est posée l'Église, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle. On peut prendre l'exemple de l'affaire des mantelets. Les mantelets, c'était ces petits voiles que l'on mettait sur les tableaux et donc qui augmentaient la dramaturgie autour de l'image, puisque évidemment, les images, contrairement à ce qu'elles sont censées faire, c'est-à-dire montrer quelque chose, étaient la plupart du temps cachées. Et ce n'est qu'à certaines occasions qu'on les découvrait pour qu'elles donnent à voir toute leur puissance et qu'elles provoquent les effets attendus, à savoir les questions de dévotion. Et il a été à un moment question, il y a un synode qui s'est constitué pour mettre fin à ces mantelets, parce que les mantelets, précisément, donnaient à l'image une charge, une valeur qui pouvait faire croire qu'elles étaient des objets divins en eux-mêmes, et que donc on allait frôler l'idolâtrie, qui est le grand problème de l'image. Il se trouve que finalement l'Église a résolu l'affaire en considérant que les mantelets étaient utiles. Mais on a là, une fois de plus, dans des stratagèmes inverses à celui du Corrège, où on est dans la grandiloquence extraordinaire d'une coupole, à l'échelle même d'un petit tableau et d'un petit voile dessus, quelque chose qui a à voir avec la façon de théâtraliser l'attention du regardeur.
Guillaume Casgrain.
Oui, la Madone Sixtine de Raphaël est construite comme cela, puisqu'elle intègre dans le tableau lui-même le système de rideaux, puisque Raphaël peint la tringle aussi et le rideau, qui est censé s'ouvrir devant l'apparition, et donc qui permet de confondre le rideau réel et le rideau fin, et de faire en sorte que ce que l'on voit soit perçu comme soudain. On tire le rideau et on voit apparaître la Vierge.
Donc, alors, puisque la Vierge apparaît, Guillaume Casgrain, j'ai une question à vous poser, puisque dans le dernier chapitre de votre livre, vous évoquez, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, vous évoquez Saint-Luc. Saint-Luc qui aurait peint la Vierge, mais en fait, auquel la Vierge serait apparue pour lui permettre de le peindre.
Voilà, il n'arrivait pas à faire le visage, parce que le visage était trop beau, trop céleste, et donc, n'arrivant pas, c'est soit un ange qui vient le finir, soit la Vierge qui apparaît pour faciliter le travail de Saint-Luc. Donc du coup, Saint-Luc est devenu le saint patron des peintres, et donc c'est pas innocent si c'est un peintre visionnaire qui est devenu le saint patron des peintres à la Renaissance.
Magnifique histoire, Jean-Baptiste.
Il y a un tableau d'ailleurs sur ce sujet que vous citez, je crois, de Vasari, qui est extraordinaire dans l'emboîtement des apparitions, puisqu'on voit le peintre, Saint-Luc en l'occurrence, peignant la Vierge, qui lui apparaît sur le tableau, donc dans un fameux nuage, cette apparition elle-même surgissant d'une boîte à pinceaux, qui est donc une manière de raconter la façon dont l'apparition pour le peintre est à la fois réelle dans le tableau et pour le... Donc il y a quatre apparitions en une seule.
Et derrière, vous avez les assistants qui, eux, sont incapables de voir tout ça. Ils ont les mains dans la matière, ils sont en train de broyer les couleurs. Et la Vierge semble sortir de la boîte de couleurs, hein, comme un génie de sa boîte, comme si elle était l'émanation directe des couleurs utilisées par Vasari.
Le fait que le Saint-Luc visionnaire soit le patron des peintres, on l'interprète comment? Est-ce que ça veut dire que le peintre est visionnaire parce qu'il a une vision intérieure? Est-ce que ça veut dire qu'il est visionnaire? Est-ce que ça veut dire que la peinture qu'il fait est sacrée? Et est-ce que ça veut dire enfin que la grande question de la peinture est celle de rendre présent, charnellement presque, ce qui apparaît?
Le fait que Saint-Luc soit le patron des saints, c'est une manière aussi de montrer que la peinture est une activité sacrée, hein, qu'elle est au service du culte. Mais c'est exploité au XVIe siècle aussi comme un moyen de défendre la pratique libérale de la peinture, qui n'est plus simplement une activité manuelle et qui dépendrait d'une certaine technique, mais qu'elle provient avant tout de l'ingenium, c'est-à-dire du génie incarné, et donc de capacité spirituelle de l'artiste qu'on ne peut pas apprendre. C'est inné. Au même moment, on voit apparaître la notion de peintre qui naît peintre. Ils sont déjà peintres dans le ventre de leur mère.
Donc, ça c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a une grâce qui est posée sur le peintre, sur l'artiste.
Oui, en fonction des influences célestes, de la position des planètes au moment de leur naissance, etc., qui expliquerait qu'ils ont un génie particulier, qu'ils ne tirent pas d'un apprentissage mécanique. Et donc, la vision devient un modèle de la pratique artistique en général, mais principalement picturale. Et notamment pendant la période maniériste, il y a beaucoup d'artistes qui vont essayer de pousser le plus loin possible ce fantasme-là et de créer sans les mains, sans rien, sans instrument, par la simple acuité intellectuelle, la ferveur dévotionnelle, voire érotique. Alors on peut peindre avec son sang, on peut peindre avec ses larmes, on peut peindre avec son sperme.
Et ça a donné quelques réussites ou pas?
Des dessins, mais concrètement, non. Mais il faudra attendre Duchamp pour avoir une peinture
strictement mentale, une causa mentale absolument incarnée. C'est l'invention d'une sorte de conceptualisation absolue de ce qu'est l'artiste. Ah, donc, ce qui est assez touchant dans le livre aussi, alors on pourra en parler du point de vue de l'histoire de l'art, parce qu'il amène Panofsky, Klein, Damisch et d'autres, une pierre extraordinaire à la lecture de l'art. Mais ce qui apparaît au fond dans cette ingéniosité de l'artiste, c'est la sainteté de son activité.
Oui, pour la plupart des artistes de cette époque-là, peindre peut être comparé à une prière. Et bien souvent, les artistes signent leurs tableaux, non pas pour qu'ils soient authentifiés, mais pour que leur nom puisse être relayé par la prière du dévot lorsqu'il est devant l'image.
Pour être sauvé, c'est cela, Jean-Baptiste?
C'est une tradition ancienne, d'ailleurs, qui remonte. L'icône byzantine doit être peinte en état de prière. Elle suppose une forme de sainteté du peintre qui doit répondre à un certain nombre de règles. Et si son immoralité devait être prouvée, alors les icônes s'écrouleraient d'elles-mêmes.
L'art est la matière, et cette matière est sainte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Baptiste de Beauvais. Merci Guillaume Casgrain.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était « L'art est la matière » par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons reçu Guillaume Casgrain et Jean-Baptiste de Beauvais pour nous parler du livre « Représenter la vision, figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance » qui m'a passionné, paru en septembre 2017 chez Actes Sud. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Élodie Hubert. Attachée de production, Sylvia Favre. Une émission très bien préparée par Sixtine Dethé. Prise de son, Claude Niort. Réalisation, Franck Lilin. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot et sa saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.